Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Bédina Boussouma, voici le sommaire. Le chef de l'État fustige la recrudescence des conflits au sein des institutions provinciales, situation qui freine le développement des provinces. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi pendant le Conseil des ministres à Kinshasa. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale, indique le chef de l'État. L'inspection générale de la police nationale congolaise intensifie ses missions de contrôle sur terrain, principalement à Kinshasa. Plusieurs policiers et agents de la police de circulation routière sont déjà interpellés, accusés de graves tracasseries des usagers de la route. L'IGPNC encourage les Congolais à dénoncer et déposer plainte contre toute violation des droits humains par des policiers. Et puis, l'RDC est l'un des pays qui compte le plus de femmes fistuleuses au monde. Et depuis 2017, le Fonds des Nations Unies pour la Population s'emploie à éliminer cette maladie dans le pays, affirme la représentante adjointe de l'UNFPA en RDC, Noémie Dalmonté, et l'invitée de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République fustige la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Ces conflits matérialisés par des motions de défiance ont conduit à la déchéance des gouverneurs, freinant ainsi le développement des provinces. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Extrait choisi par Alain Rongmouching.
Alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, a-t-il précisé.
Par ailleurs, notez qu'hier samedi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience au nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Midja Leskovar. Les discussions ont essentiellement tourné autour de l'initiative pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, portée par les évêques catholiques et protestants. C'était une rencontre très cordiale et très constructive avec son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, a indiqué le nonce apostolique. Entre-temps, la première ministre séjourne depuis hier samedi à Kananga. Judith Suminwa s'est adressée à la population à la place de l'indépendance. Elle a exhorté toutes les communautés à travailler ensemble pour le développement du Kasaï central et de tout le pays. François Kadima était de la partie. Reportage.
Dans son adresse, Judith Suminwa a rappelé que Kinshasa ne représente pas à elle seule la RDC et que depuis sa nomination, il a pris l'engagement de visiter différentes provinces afin de mieux comprendre les besoins réels de la population. Devant la foule venue l'écouter, la chef du gouvernement a appelé à l'unité et à la vigilance, rejetant toute tentative de division ou de balkanisation. Sur le plan social, la première ministre a assuré que l'amélioration des conditions de vie de policiers, militaires, enseignants et agents de l'État est en cours. La construction des infrastructures essentielles suivra progressivement. Parmi les annonces majeures, la relance des travaux de chute Katende. Les fonds nécessaires sont disponibles, a-t-elle assuré. Une visite du ministre des Mines qui l'accompagne est prévue pour s'assurer du bon déroulement du projet. Elle a également exprimé son souhait de voir les travaux routiers au Kasaï central se poursuivre de manière constante et pas seulement quand les autorités sont sur place. Par rapport à l'accès à l'eau, la première ministre a assuré que des forages seront construits dans certaines zones et elle s'engage personnellement à veiller à l'avancement de travaux. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
D'autres nouvelles, l'insuffisance de l'aide humanitaire, les menaces des groupes armés et parfois le non-respect du caractère civil des sites des déplacés, telles sont les principales préoccupations des déplacés en Ituri, présentées vendredi à la rapporteuse spéciale sur les droits humains en mission en Ituri. Les acteurs de la société civile et leaders communautaires plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de la situation sécuritaire dans la province. Isaac Remoyope nous fait le point.
Aussitôt arrivée à Bunia, Paula Gaviria, rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées, a rencontré le gouverneur de province. Ces derniers ont dressé l'état des lieux de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province. Elle a ensuite échangé avec les leaders communautaires et acteurs de la société civile. Ces derniers ont signifié à leur hôte que des milliers de déplacés ne reçoivent pas régulièrement de l'aide humanitaire. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès aux champs à cause de la présence de groupes armés, ce qui accroît la vulnérabilité de ces sinistrés. Ils ont également déploré le non-respect parfois du caractère civil des sites. Certains déplacés soupçonnés d'être de connivence avec les groupes armés ont été arrêtés par les services de sécurité, notamment à Tchoumia. Des hommes en uniforme avec leurs armes s'introduisent parfois dans les sites. Ils ont fait allusion au drame survenu il y a quelques mois au site de Rwampara où des déplacés ont été tués par certains éléments des forces de l'ordre. De son côté, la rapporteure spéciale a souligné la nécessité d'élaborer un cadre national pour la protection des personnes déplacées, mais aussi de renforcer la confiance entre les communautés. Ce samedi, Paula Gaviria s'est rendue au site de Telega et de Bembeï à la périphérie de la ville de Bunia pour s'enquérir de la situation humanitaire dans la région. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, le collectif des jeunes unis pour la protection de la nature alerte sur les effets négatifs de la guerre sur le parc national de Virunga, notamment la disparition des activités touristiques. Kasereka Viambite, son porte-parole, déplore la perte de la culture, de la conservation chez les riverains du parc et l'occupation d'une partie de ce patrimoine mondial de l'UNESCO par des groupes armés. Cet environnementaliste recommande aux autorités la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Kasereka Viambite explique dans cet extrait recueilli par André Kitenge.
La guerre qui se vit à l'est de la RDC a des impacts tout à fait négatifs vis-à-vis de l'environnement et plus pratiquement sur la conservation de la nature. Concrètement, le parc national de Virunga, la guerre a réduit sensiblement les recettes que ce dernier devrait générer. Entre autres, l'activité du tourisme qui est quasi inexistante depuis que la guerre a pris une ampleur de plus en plus inquiétante. Il n'y a plus de touristes. En dehors de cela, il y a la culture de la conservation qui est en train de disparaître petit à petit. Nous d'abord, aux riverains, nous devons avoir la notion de la protection et de la conservation. Ça, c'est de un. De deux, pour le tenant du pouvoir, de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Nous devons dire à Kinshasa de restaurer la paix, rien que la paix, pour que la vie touristique reprenne pour le bien-être de nous-mêmes et aussi des générations qui vont devoir venir après nous.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, l'inspection générale de la police intensifie ses missions de contrôle sur terrain, principalement dans la ville-province de Kinshasa. Samedi matin, un major de la police, commandant adjoint du commissariat de Kinsuka, Pampage, accusé de mener la vie dure au taximen moto, a été arrêté par des équipes larguées dans les diverses artères des communes de la ville de Kinshasa. Il fait donc partie de plusieurs autres policiers et agents PCR, auteurs de graves tracasseries des usagers de la route. Interpellé le même jour, hier samedi, le service d'investigation de l'IGPNC encourage une fois de plus les Congolais à saisir ses services sur l'avenue Justice numéro 40 pour dénoncer et déposer plainte contre toute violation des droits humains par des policiers. Colonel Jean-Claude Chibuyanga explique dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Aujourd'hui, après avoir tourné dans la ville de Kinshasa, il y a eu 4 récalcitrants. On n'a pas dit qu'ils sont seulement les 4, mais il y en a nombreux. Nous avons pu mettre la main sur les 4 et avec le temps, avec l'autorisation des messieurs inspecteurs généraux, on va vous les présenter à la presse parce que pour le moment, ils sont sous audition dans nos services. Voilà un peu la journée d'aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes là pas pour combattre les agents de la PCR à ne pas travailler, mais nous sommes là pour les encadrer de manière à ce qu'ils puissent travailler conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Que la population cesse de se plaindre parce que c'est la population qui vient dénoncer auprès de l'inspection générale les bavures et les autres tracasseries que commettent nos gens de la PCR. Dans les jours à venir, nous, c'est notre tâche, faire respecter les codes d'ontologie de la police par les personnels de la police, y compris la PCR. De monsieur l'inspecteur général, il va encore nous envoyer sur le terrain parce que c'est notre tâche quotidienne.
Direction le Congo central, évasion hier de 11 détenus du cachot du parquet près le tribunal de paix de Sekebanza à Kinzamvuete. L'administrateur du territoire de Sekebanza qui confirme les faits indique que ces évadés, dont nombreux sont auteurs des viols qualifiés, se sont échappés non seulement à cause de la vétusté de ce lieu de détention, mais également de l'insuffisance des policiers commis à leur surveillance. Face à cette situation, l'administrateur Pacheli Lendo appelle les autorités ayant la justice et les droits humains dans leurs attributions à doter le territoire de Sekebanza d'une prison adéquate en vue de mettre un terme au transfèrement des détenus vers la prison de Tchela. Nana Plurich Mambou nous en dit plus.
D'après l'administrateur des territoires de Sekebanza, l'évasion au cachot du parquet près le tribunal de paix de Sekebanza à Kinzamvuete a eu lieu aux environs de 8h de ce samedi. Ces 11 détenus ont pris les larges après avoir fait tomber la porte métallique de ces lieux de détention sur l'unique policier commis à leur surveillance. C'était au moment où les policiers voulaient faire sortir les détenus les plus faibles pour l'amener au marché organisé chaque samedi à Kinzamvuete en vue de collecter l'argent de la ration hebdomadaire de ces prisonniers. Pacheli Lendo affirme que nombreux parmi ces 11 évadés ont été condamnés pour viol qualifié et attendaient leur transfèrement à la prison de Tchela où ils allaient purger leur peine. Pacheli Lendo appelle les autorités à construire une prison viable à Sekebanza car les ressortissants de cette entité qui sont en détention à la prison de Tchela sont dépourvus de visites familiales à cause de la distance et ils meurent de faim. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous sommes au Maniema à présent. Le premier noyau des enseignants et directeurs des écoles primaires clôture sa session de formation sur l'informatique au niveau moyen et terminal du primaire. Selon les organisateurs, l'objectif principal était de les aider à se familiariser avec les notions essentielles de l'informatique. En effet, ces derniers vont enseigner ce cours qui est en souffrance dans plusieurs écoles, bien que figurant dans le programme scolaire. Et après cette formation, plus d'un observateur pense que désormais, dans les bulletins des enfants, il y aura la pondération de ce cours. Compte rendu de Florence Kizalunga.
Selon leur dire, les participants affirment avoir bien assimilé les notions d'informatique. Faustin Chabani, enseignant de l'EP Mwanga.
Nous les enseignants, après cette formation, nous allons enseigner très bien aux enfants les cours d'informatique parce qu'on avait des lacunes pour l'enseigner.
Toutefois, les directeurs plaident pour une dotation en outils informatiques. Lukangi Kilangalanga, directeur de l'EP Kindouville.
Nous demandons aux autorités de doter nos écoles avec des kits informatiques pour mieux faire la pratique.
Les facilitateurs de ces assises restent convaincus de matière dispensée. Moussafiri Fariala.
Nous avons appris à ces enseignants et directeurs quelques notions sur les systèmes d'exploitation Windows, les Microsoft Word, Microsoft Excel. Et Internet.
Et les organisateurs recommandent aux bénéficiaires la mise en application de toutes les notions apprises. Mwelwa Mulangi Filemon.
Nous recommandons aux enseignants et directeurs de se mettre directement au travail et pour que, désormais, les bulletins ne restent plus vides au niveau de ces cours.
Signalons que cette formation sera élargie dans les sous-divisions et même en l'intérieur de la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango plaide pour la reprise des travaux de réhabilitation de la route reliant la ville de Kenge à la cité de Mawanga, longue de plus de 250 kilomètres. D'après le vice-président de cette structure citoyenne, ces travaux, qui ont été lancés depuis 2022 et exécutés par l'entreprise ABC, ont connu deux fois des arrêts, laissant la route encore dans un état de délabrement très avancé. Symphorien Kwengo indique que cette situation empêche les paysans de bien évacuer leurs produits agricoles. Le vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwango explique la situation au micro de Irène Boma.
Les travaux de réhabilitation de la route allant de Kenge à Mawanga sur une distance de 250 km avaient été lancés en octobre 2022 par l'entreprise ABC. Après presque 12 mois, les travaux ont été arrêtés. En 2024, les travaux ont repris Mais malheureusement, le contrat d'exécution des travaux de l'ABC sera résilié par l'office de route. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quelle entreprise va poursuivre les travaux. La population qui utilise ces tronçons routiers souffre énormément pour évacuer sa production agricole. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo recommande au gouvernement de la République, par le biais de l'office de route, la poursuite des travaux de cette route d'intérêt provincial. L'audit financier des fonds perçus pour ces travaux et définir clairement les responsabilités de chaque acteur. Que le marché soit confié à une entreprise sérieuse et compétente, capable de remettre en état cet axe routier.
Actualité internationale.
La défense civile de la bande de Gaza déplore la mort de 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens dans un bombardement israélien hier sur la ville de Khan Younes. Selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, supervisé par le Hamas, au moins 1400 familles palestiniennes ont été complètement décimées depuis le 7 octobre 2023.
L'invité.
La RDC est l'un des pays au monde qui compte le plus des femmes fistuleuses. Depuis 2017, le Fonds des Nations Unies pour la Population s'est engagé à éliminer cette maladie au pays. C'est ce qu'indique Noémie Dalmonté, la représentante adjointe de cette agence onusienne en RDC, en séjour en Ituri depuis vendredi. Elle l'a dit en marge de la célébration de la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale, journée observée le 23 mai de chaque année. Noémie Dalmonté est avec Sadiq et Aboubakar.
Noémie Dalmonté, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'objet de votre mission ou de votre visite en Ituri?
L'objectif principal, c'est de vulgariser un peu les axes stratégiques du nouveau programme pays, parce que nous signons avec le gouvernement un programme tous les 5 ans et on vient de démarrer cette année qui était un peu compliquée parce qu'avec la crise ici à l'Est, on a eu un ralentissement des activités de développement. Et donc, par conséquent, très important pour moi de speed up, de donner un coup d'accélérateur aux activités et autres que la réponse à la crise.
Alors, vendredi 23 mai, c'était la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. On le sait tous, UNFPA tient le lead de cette lutte dans le pays. Qu'est-ce qu'on peut en savoir?
La fistule obstétricale, c'est une maladie qui affecte une grande partie de femmes qui accouchent en RDC. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de cas de fistule obstétricale dans le monde. On en a 60 000 en attente d'être opérés, qui sont estimés par le ministère de la Santé. Et nous, on s'engage à pouvoir éradiquer ce fléau. La fistule obstétricale, c'est une maladie qui a une conséquence très souvent de grossesses très rapprochées ou des grossesses en âge trop jeune ou des complications qui peuvent arriver ou même des grossesses tardives. Et donc, c'est quelque chose qui est préventable mais qui est aussi soignable. Et c'est une condition qui a un impact psychologique très fort et parce que c'est un peu la maladie de la honte. La fistule, c'est une communication entre les vagins et l'anus qui se crée et ça peut être très grand, très petit, mais dans tous les cas, ça fait perdre des selles et des urines de façon continuelle. Et donc, la femme sent et c'est très stigmatisé comme condition. Et ça peut bloquer complètement la vie productive d'une femme, ça peut avoir des séquelles psychologiques importantes et sa contribution au développement de la communauté ici en est affectée. Et maintenant, en RDC, on a aussi les phénomènes des fistules qui sont conséquences des viols très agressifs. Et donc, la guerre peut porter des violences sexuelles qui ont conséquences des fistules assez difficiles à réparer parce qu'ils peuvent vous demander une chirurgie plus complexe et plus longue. Mais tout ça, c'est soignable.
Et qu'est-ce fait concrètement UNFPA dans le cadre de la lutte contre cette maladie dans le pays?
Depuis 2017, UNFPA a accompagné les ministères de la Santé. On forme les chirurgiennes, on accompagne les plateaux techniques des hôpitaux parce que c'est de la chirurgie complexe et très minutieuse. Et une stratégie qui a commencé en 2017 de rendre disponible dans chaque province de la RDC un mois un plateau technique. Comme ça, la stratégie de réparation peut être faite en routine par les hôpitaux. Donc en RDC, maintenant, vous avez la prise en charge de la fistule obstétricale en routine.
De manière permanente.
Oui.
Pour ce qui est de l'Ituri, par exemple, dans quelle structure est-ce que cette prise en charge est organisée?
Alors, les plateaux techniques de l'hôpital général de référence ici à Bounia, c'est sans doute l'endroit où aller. en cas que vous avez un fistule testicale, donc en cas que vous sentez, que vous perdez des selles et de l'urine sans savoir. Ça peut être aussi en descente des organes, ça peut être aussi d'autres complications postpartum ou gynécologiques, parfois dues à l'âge ou à la périménopause. Et donc, mais c'est bien d'aller se faire consulter pour voir si c'est vraiment cette fistule qui vous dérange et vous rend la vie compliquée.
Et la prise en charge, est-ce qu'elle est gratuite? Parce que vous avez dit, ça ne prend pas un ou deux jours, c'est un mois tout au moins.
Il y a une capacité des hôpitaux de prendre en charge qui dépendent du budget de l'hôpital et donc il y a des seuils. Donc les meilleurs, c'est de s'informer avec, par exemple, Caritas Bounia, qui a beaucoup d'activités sur la santé sexuelle et reproductive, et, ou avec d'autres ONG avec lesquelles on travaille, comme PPSP ou RAPDI, ou même les SOFEPADI, même les organisations des femmes. Hein. C'est bien de se renseigner chez elles, parce qu'elles savent toujours la disponibilité plus ou moins dans l'hôpital de Bounia, mais aussi dans d'autres campagnes spécifiques, s'il y en a. Et puis, on aura quand même des périodes de campagne qui, normalement, on commence tout de suite après la journée de la fistule obstétricale dans chaque région pour pouvoir booster un peu l'accès aux services.
Mais si on est dans le seuil, ça veut dire que c'est pas seulement l'aspect médical qui sera pris en charge, mais aussi restauration, tout ça est dans la prise en charge.
Normalement, vous êtes pris en charge pendant ces 20 jours-là et souvent, on a des partenariats, par exemple, avec les PAM qui peuvent soutenir l'alimentation et sinon, on demande aux familles d'aider avec l'alimentation. Donc, il faut se préparer à être un peu organisé quand on vient pour faire une chirurgie si complexe.
Noémie Dalmonte, merci.
Merci à vous.
La représentante adjointe de l'UNFPA en RDC répondait aux questions de Sadiq Aboubakar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.